Vous écoutez Radio Okapi, émettant de Kinshasa. Nous mettons à votre disposition l'information sportive nationale et internationale. Une équipe de 4 journalistes reporters se penche sur l'actualité dans ses moindres détails. Des enquêtes, des reportages, des directs, des journaux en synthèse et 4 heures non-stop de tours de correspondants chaque dimanche. Radio Okapi, l'info, c'est aussi le sport et le pas de course.
Guilhem Aléré, vous êtes juriste, et nous abordons avec vous la procédure pour porter plainte contre l'inconnu. Et comme je l'ai dit en sommaire, il nous est parfois arrivé d'être victime d'un acte dont l'auteur n'est pas connu. Il peut s'agir d'une agression la nuit dans un endroit non éclairé ou encore d'un cambriolage dans une boutique. Alors quelle procédure suivre pour porter plainte contre l'inconnu? Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on puisse d'abord fixer l'opinion. Une plainte contre l'inconnu est-elle aussi régie par la législation congolaise et de quoi s'agit-il concrètement?
Très bien, J.R., je vous remercie beaucoup pour le choix de ce sujet parce que la population souvent ignore que même lorsqu'on n'a pas identifié l'auteur du forfait ou de l'infraction, on peut quand même saisir les instances judiciaires. Et dans le cas d'espèce, donc, la plainte contre inconnu, c'est le fait d'aller se plaindre auprès ou dénoncer auprès des autorités judiciaires compétentes un forfait, une infraction dont on a été victime de la part d'une personne qu'on n'a pas pu avoir l'occasion d'identifier. Et donc, effectivement, la loi, comme vous avez voulu le savoir, la loi prévoit que toute plainte, n'est-ce pas, toute plainte, toute dénonciation, la nuance étant ici que la plainte vient de la victime, la dénonciation de toute personne qui a pu avoir connaissance de l'infraction, eh bien, toute plainte ou toute dénonciation doit faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire. C'est l'ordonnance du 3 juillet 1978 relative aux attributions des OPJ qui le dit. Et donc, article 37 de cette ordonnance, toute plainte, donc, que ce soit contre un auteur identifié, que ce soit contre un auteur non identifié, eh bien, toute plainte doit faire l'objet d'une enquête de la part d'un OPJ. C'est une obligation. L'article 38
de cette ordonnance. L'OPJ, c'est l'officier de police judiciaire.
Merci beaucoup, Gérald Lumière. Et l'article 38 qui complète cet article 37 ajoute et dit, les officiers de police judiciaire, donc, les OPJ, sont obligés, tenus, de recevoir toute plainte et toute dénonciation, et d'ouvrir une enquête relative à cette plainte. Donc vous comprenez qu'en réalité, les gens se privent de ce droit que leur a donné la loi, de pouvoir, chaque fois qu'ils sont victimes d'une infraction, eh bien, aller se plaindre, même s'ils n'ont pas eu le temps d'identifier l'auteur. Tout ce qu'on leur demande à ce moment-là, c'est de donner le maximum d'informations à l'officier de police judiciaire ou au magistrat du parquet, parce que l'OPJ travaille sous la supervision du magistrat.
C'est l'auxiliaire de la justice.
Merci beaucoup, J.R. Et donc, par rapport à cela, on leur demande de donner le plus d'indices possibles, le plus d'informations possibles en termes des traces que le voleur ou l'infracteur aurait laissées, et en termes de témoins ou de personnes qui auraient quand même quelques renseignements à donner à la justice. Donc, la plainte contre inconnu est tout à fait acceptée et les agents, les acteurs judiciaires sont obligés par la loi de recevoir ce genre de plainte et d'enquêter.
Mais dans quel cas on peut rejeter cette plainte? Dans quel cas? Donc, si tous les éléments ne sont pas réunis, ou peut-être on remarque qu'il y a un cas de suspicion?
Moi, je ne sais pas si vous avez compris les termes de la loi. Les termes de la loi, c'est que, en fait, le législateur est conséquent avec lui-même. C'est la Constitution qui nous dit que le monopole de la justice, de rendre la justice, de dire le droit, est réservé aux cours des tribunaux et aux parquets qui y sont rattachés. Donc, ça veut dire qu'on interdit, c'était, je crois, le thème d'une des émissions ici, on interdit aux citoyens de se rendre justice. Donc, comme ce sont les institutions judiciaires qui ont le monopole de la justice, n'est-ce pas, eh bien, elles sont donc obligées d'enquêter, de faire un minimum d'enquête, quitte à ce que le parquet puisse dire non, les faits qui ont été dénoncés ne sont pas établis, alors ils classent sans suite, n'est-ce pas? Et si les faits sont réellement établis, ils trouvent des preuves, des indices à mettre à charge et identifient des auteurs, eh bien, à ce moment-là, ils décident de les poursuivre devant les cours de tribunaux. Mais dans tous les cas, on ne peut pas d'emblée rejeter une plainte. Non, on doit, c'est une obligation pour les acteurs judiciaires de recevoir d'abord la plainte et ensuite d'en examiner le bien fondé à travers une enquête qui peut être sommaire ou approfondie selon les circonstances.
Oui, mais contrairement à d'autres infractions ou à la recherche de d'autres infractions, la plainte contre l'inconnu, si on s'est lancé la recherche de l'infraction, ça prend vraiment du temps. La procédure, elle est très longue par rapport à d'autres. Ok, amener des enquêtes, ça demande vraiment des moyens conséquents.
Vous savez, c'est comme j'ai dit, ça dépend des circonstances. Vous savez, tout à l'heure, en venant dans la voiture, j'ai suivi que s'agissant des incidents qu'il y a eu à l'université de Kinshasa très récemment, on était en train d'annoncer que grâce à la police de la commune, je crois, de Lemba, eh bien, on a pu mettre la main sur quelques suspects déjà. Donc, et là, vous savez que quand les choses ont commencé, c'était pratiquement une enquête contre un auteur. Donc maintenant, très vite, à cause des témoignages, on a dit que c'était les témoignages de la population associés aux investigations menées par les policiers. On a très vite identifié quelques suspects qui sont en train d'être interrogés. On peut espérer qu'à partir des renseignements qu'on aura de ces suspects-là, eh bien, tout le réseau peut être démantelé. Donc ça dépend, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a les moyens dont disposent les enquêteurs parce que pour rechercher certaines traces, certains indices, ça demande des moyens techniques. Et donc là, il faut qu'il y ait une police technique à la disposition des enquêteurs. Il y a aussi le courage des témoins, parce qu'il y a des témoins qui détiennent des infractions, des renseignements, qu'ils hésitent à livrer aux enquêteurs. Mais lorsque
la collaboration aussi de la population,
la collaboration de la population qui est prête à dénoncer, n'est-ce pas, tous ces suspects qu'elle a pu remarquer, etc. Ça peut faire qu'une enquête aille vite ou moins vite selon les cas. Ça dépend des circonstances.
Alors, quels sont les forfaits qui peuvent faire l'objet d'une plainte contre inconnu?
Alors, généralement, selon ce que nous avons observé dans la pratique, tout ce qui est agression nocturne, à main armée,
vol de téléphone,
vol, etc., et bien souvent, on n'identifie pas tout de suite l'auteur. Hein, c'est-à-dire qu'on est endormi et le lendemain, on se lève, on constate que tiens, tout a été pillé dans la maison. Ou bien alors, il y a des gens qui viennent cagouler en armes, qui entrent, qui commettent divers forfaits. Ils peuvent tuer, ils peuvent violer, ils peuvent emporter des biens. Et souvent, on dans toutes les situations où l'on ne parvient pas à identifier l'auteur, eh bien, ça, c'est des situations qui requièrent une plainte contre inconnu. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on constate? La population a tendance à croire que lorsqu'elle n'a pas identifié un auteur présumé, eh bien, bon, elle laisse tomber. Elle laisse tomber. Alors que la justice est là, justement, pour l'aider à identifier même un auteur qui, dans un premier temps, n'a pas pu être, n'est-ce pas, clairement identifié par la victime. Donc, la plainte pour inconnu est vraiment un mécanisme prévu en matière de justice pour pouvoir lutter contre l'impunité, justement. Et grâce, parce que ces gens-là sont formés, les officiers de police judiciaire, les agents de la police technique et scientifique, etc., c'est des personnes bien formées, les magistrats qui les supervisent, eh bien, qui peuvent, à partir de presque rien, n'est-ce pas, parvenir à remonter la filière jusqu'à découvrir l'identité et de l'exécutant et du commanditaire.
Oui, parce que c'est bien étant, nous remarquons, il y a même des vols de voitures, même au niveau des églises. Vous parquez, vous entrez prier, à la sortie, vous remarquez que vous n'avez plus votre voiture, et ça s'est devenu une monnaie courante.
Exactement, et souvent aussi, nous voyons dans la presse, de temps en temps, on nous montre quelques biens qui ont été récupérés, parce que l'auteur, la victime a eu le réflexe d'aller quand même signaler que bien, je viens de me faire voler une voiture, etc. À partir de ce moment-là, tout ceci est enregistré dans les fichiers de la police qui mène des enquêtes. Et bien, par chance, n'est-ce pas, on peut du jour au lendemain vous appeler, vous dire, venez identifier tel bien pour voir si ce n'est pas le vôtre. Mais lorsque vous n'avez pas porté plainte, ça veut dire que vous n'avez pas mis en marche le mécanisme d'enquête, et donc vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc il faut porter plainte.
081 890 63 77, c'est pour les appels.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Utopie réunit des spécialistes compétents dans votre service. Toute une équipe de nouveaux dynamiques fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Café Service, de lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa. Au Café Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Voilà, Maléré, bilan. On sait que le délai accordé à la victime pour porter cette affaire en justice est aussi mentionné dans les dispositions légales.
Oui, évidemment, c'est ce qu'on appelle la prescription, n'est-ce pas?
Mmh.
Et donc, lorsqu'une infraction est commise, selon sa gravité, n'est-ce pas, la hauteur de, comment dire, de la peine, hein, eh bien, la loi dit que vous donne obligation de porter les faits à la connaissance de la, des organes judiciaires pour que des enquêtes appropriées puissent être faites et les auteurs identifiés et éventuellement sanctionnés. Lorsque vous-même, vous renoncez à exercer votre droit de porter plainte, de dénoncer, etc., eh bien, il y a ce qu'on appelle un délai de prescription qui court, de sorte qu'après ce délai-là, eh bien, la justice ne peut plus poursuivre, même si vous venez par après vous raviser en disant, bon, écoutez, je viens quand même porter plainte. Alors, généralement, ces choses-là sont réglées par l'article 24 de notre code pénal, qui dit que si c'est une infraction qui est punie d'une peine d'au maximum une année, eh bien, après un an, eh bien, c'est les poursuites sont prescrites.
Je prends le cas de vol de voiture, par exemple.
Non, le vol, c'est une infraction punissable de plus d'un an, je crois. Et donc là, il faut 3 ans. Il faut 3 ans. Après 3 ans, si vous n'avez pas porté plainte, eh bien, il y a prescription. Même si vous venez, on ne va plus sanctionner la personne et comment dire, épargner des poursuites.
Alors j'imagine qu'avec le téléphone, c'est un peu réduit.
Non.
Le téléphone portable, vous vous retrouvez au rond-point victoire, vous êtes victime de vol de votre téléphone, vous portez plainte contre l'inconnu, mais je crois que ce vol-là ne doit pas être sanctionné.
Non, le vol simple rentre dans les termes de l'article 80 du code pénal qui dit que le vol commis sans violence ni menace, comme les vols de téléphone, sont punis d'une servitude pénale de 5 ans au maximum. Nous sommes donc jusqu'à 5 ans de prison. De quel que soit le bien qui est volé, hein, vous savez, évidemment, le juge, il apprécie la gravité pour vous accorder des circonstances atténuantes, n'est-ce pas? Mais en réalité, il ne peut pas aller au-delà de, n'est-ce pas, des maxima ou en deçà des minima qui sont prescrits par la loi. Et donc, le vol est en soi une infraction suffisamment grave, n'est-ce pas, pour qu'elle ne soit pas prescrite en une année. Le législateur a prévu que pour ce genre d'infraction, eh bien, c'est après 3 ans seulement que l'on peut considérer que les poursuites sont prescrites.
Malheur et Guilain, en droit, on sait que le mobile, comme vous l'avez dit, vous les juristes, est inopérant. Une victime qui a eu des échanges pas très courtois avec quelqu'un il y a 2 ans, par exemple, est-ce une raison pour celui-là de soupçonner son adversaire d'autrefois dans les cas où il est agressé par des personnes non autrement identifiées?
C'est vrai que le mobile est inopérant, mais le mobile ici, il faut l'entendre comme la raison qui a poussé, n'est-ce pas, un infracteur à agir, l'élément psychologique déterminant qui l'a amené à commettre le crime qu'il a commis. Alors, dans l'exemple que vous donnez, ce n'est pas parce que vous avez eu un problème avec quelqu'un que nécessairement vous avez
déjà le bénéfice.
Mais par contre, il y a des gens qui ont proféré des menaces précises en disant, et enfin du genre, hein, on en entend souvent à la cité, eh bien, attendez les jours où je te retrouverai, tu sauras qui je suis. Et comme ça, brusquement, une nuit, vous êtes victime d'une agression d'une personne, par exemple, cagoulée, masquée. Eh bien, lorsque vous irez porter plainte, vous portez plainte contre inconnu, mais vous précisez dans les renseignements, les autres renseignements que vous êtes censé donner à l'enquêteur, que attendez, il y a tel antécédent avec telle personne, et donc ça permet à l'enquêteur d'orienter, n'est-ce pas, l'enquête, parce qu'il faut quand même lui donner quelques pistes. Alors, parfois, après enquête, il peut s'avérer que la personne
n'y
est pour rien parce qu'elle avait un mobile, un alibi
sérieux,
qui fait qu'elle ne pouvait pas être là dans ces circonstances-là. Et donc, l'enquête est dirigée. Mais c'est bon de donner directement aux enquêteurs quelques pistes, quelques indices, quelques antécédents qu'on a eu avec des personnes, antécédents qui peuvent éventuellement amener ces personnes
à comprendre. La suspicion est quand même permise par les législateurs congolais.
Oui, dans la mesure où on la porte
dans le cas d'espèce,
où on la porte à la connaissance de l'enquêteur, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas bonne si on s'en tient à ça pour, n'est-ce pas, formellement accuser une personne. À ce moment-là, on peut se retrouver soi-même victime de l'infraction de hauteur, de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Donc, il faut très faire attention. Il faut donner ça comme renseignement simple à l'enquêteur, de sorte qu'il puisse explorer cette piste, et s'il n'y a rien, ben, il abandonne. Mais ne venez pas formellement, n'est-ce pas, accuser M. J.R. Lugembo d'avoir... certainement voler ma radio, parce que chaque fois qu'il vient chez moi, il a un regard
sur ma radio.
Là, c'est pas normal.
Voilà. Alors, Valérie Guilain, c'est vrai, nous avons des auditeurs en ligne. Nous allons peut-être récupérer quelques préoccupations. Blanchard Luana, vous êtes en Bandaka. Bonjour Blanchard.
Oui, bonjour JR.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est de savoir... si tout genre de plainte déposée contre un inconnu peut toujours convaincre les juges à pouvoir s'en saisir. Prenons les cas, par exemple, quelqu'un, un inconnu qui injurie quelqu'un au téléphone en utilisant un numéro masqué. Voilà ma question.
Voilà, des menaces de mort qu'on reçoit à longueur de journée par téléphone, c'est pas moi. Quelle procédure à suivre?
Je réponds d'abord tout de suite à la question. C'est tout genre de plainte qui doit être reçue par le magistrat du parquet ou par l'OPJ qui travaille sous sa supervision. Ça, c'est clair. Il ne peut pas d'emblée rejeter une plainte. Alors, néanmoins, le magistrat qui supervise les enquêtes ou l'instruction préjudicielle, eh bien, il instruit à charge et à décharge à la fois. Mmh. Donc, il recherche en fait la vérité. Il recherche à voir si la plainte est fondée.
Dans la charge, c'est-à-dire des infractions qu'on met en charge de
l'auteur.
De l'auteur. Et mais des charges, c'est encore
plus que non. C'est ce monsieur est innocent. Est innocent. Donc, il agit dans les deux situations et à la fin de l'enquête, à la fin de l'instruction, il donne sa position. Il dit non, les faits qui ont été dénoncés ne sont pas établis et donc il prend une décision de classement sans suite. Mais lorsqu'il parvient, parce que c'est à lui que la loi donne tous les moyens. Tenez par exemple, dans le cas des cesses, vous recevez des menaces par téléphone à partir d'un numéro masqué. La loi reconnaît, il y a d'abord le secret des correspondances qui est vraiment un secret constitutionnellement garanti, mais et des communications, mais la loi reconnaît au procureur, n'est-ce pas, général, le pouvoir de réquisitionner des informations auprès des sociétés ou des entreprises de télécommunications pour qu'elles lui disent qui sont derrière tels appels destinés à telle personne à tel moment de la journée. Et donc, à partir de cette réquisition qui est un document légal, eh bien, l'opérateur de téléphonie cellulaire est en mesure de donner en réponse au procureur l'identité de l'abonné qui a appelé tel autre à telle heure. Et vous savez, à partir des pouvoirs légaux que la loi donne aux magistrats, eh bien, on quitte de l'inconnu, plainte contre inconnu, au connu. À ce moment-là, l'auteur est identifié et le magistrat peut le poursuivre. Donc, la loi encadre tout ça.
Alors, l'auteur est identifié. Une question de curiosité, M. Guilain. Oui. Quand l'auteur est identifié, est-ce que ce dernier, après qu'on ait lui à échanger avec lui, est-ce qu'il peut bénéficier aussi de circonstances atténuantes? Dans quel cas?
Bon, la première chose d'abord.
Il y a quelqu'un qui vous dit je l'ai agressé parce que nous avons eu des injures contre moi il y a 2 ans. C'était une façon pour moi, une légitime défense. Voilà, comme on dit, je l'ai fait, mais la nuit.
Oui, c'est vrai, J.R., vous avez raison de dire ça. C'est que les circonstances atténuantes sont organisées aussi par la loi. C'est la loi qui permet que l'on ne puisse pas sanctionner un criminel ou un infracteur récidiviste avec un délinquant primaire, par exemple. Le fait, par exemple, que c'était la première fois que cela arrive à la personne d'agresser une autre, d'administrer des coups de blessure, par exemple, ou d'injurier, eh bien, le fait que cela soit arrivé suite à un moment de passion, n'est-ce pas, passagère, etc., le juge qui est amené maintenant à prononcer la sanction peut prendre en considération tous ces éléments et dire non, il s'agit d'un délinquant primaire, c'est la première fois qu'il fait ça, je ne vais pas le sanctionner de la même façon que je sanctionnerai par exemple un récidiviste qui a fait plusieurs fois la prison pour les mêmes faits et qui ne change pas. Donc vous comprenez effectivement, et c'est ça, c'est pour ça que généralement quand vous regardez dans notre code pénal et dans tous les codes du genre dans le monde, eh bien, il est laissé au juge une fourchette, une marge d'appréciation. Souvent, les sanctions vont de telle à telle. Vous voyez, pour le vol, par exemple, on dit que c'est punissable jusqu'au d'un maximum de 5 ans. Maximum, ça veut dire que c'est le plafond à ne pas dépasser. Alors, il y a une toute une marge, donc on peut... Il peut sanctionner pour 2 ans, etc., parce qu'il y a des petits vols qu'on appelle le larcin, etc. Un enfant qui vole quelques sous à son père, n'est-ce pas, pour aller payer un billet d'un concert, ne serait pas sanctionné de la même manière que quelqu'un qui s'introduit nuitamment dans la maison d'autrui, n'est-ce pas, pour voler tout ce qu'il y a comme appareil électroménager. Vous voyez donc, et c'est les juges maintenant, et la loi lui donne un certain pouvoir d'appréciation, pour apprécier s'il y a des circonstances qui peuvent le permettre, qu'il ne puisse pas sévir avec beaucoup de sévérité.
Voilà. Alors, l'auteur est identifié. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que je sais qu'il bénéficie aussi de la présomption d'innocence, à ce niveau-là, comme tout le monde.
Et c'est tout le problème que l'on constate, n'est-ce pas, dans nos cités, le fait que, par exemple, un auteur est identifié dans un premier temps, tout le monde croit que c'est lui, eh bien, et puis celui-ci, n'est-ce pas, fournit un alibi tel que le magistrat ne sait plus très bien entamer le
voilà.
Oui, c'est-à-dire que, bon, moi, à tel moment, j'étais à tel endroit avec tel groupe de gens qui viennent et qui témoignent en disant effectivement, on ne s'est pas quitté de la soirée avec ce monsieur, et donc au moment où le forfait a été commis, il ne pouvait pas être sur terrain. Vous voyez ? Alors que, d'une manière générale, la population croyait déjà tenir son coupable, entre guillemets. Alors, c'est tout le problème, parce qu'à ce moment-là, les magistrats sont amenés à relaxer la personne, quand bien même elle était poursuivie par la foule, etc. Et ça fait scandale. Et on entend presque chaque jour dans les médias des gens qui se plaignent. Nous, on appréhende des gens, on les conduit vers les magistrats, et les magistrats les relèvent aussitôt. Non, c'est ignorer que la personne qui est, n'est-ce pas, accusée, a aussi des droits, notamment celui que vous avez évoqué hier, la présomption d'innocence. Et puis, ce n'est pas parce que la personne s'est rendue coupable d'un fait quelconque répréhensible qu'elle n'a pas droit à d'autres mécanismes comme la liberté provisoire, etc. Parce que ça, c'est régi aussi par des dispositions particulières.
Et surtout quand il y a un doute qui persiste encore, on dit que les bénéfices du doute profitent à l'accusé.
Exactement. Et si le magistrat considère que, bon, la personne peut continuer à comparaître devant moi tout en étant chez elle, n'est-ce pas? Vous savez, la détention, c'est une exception chez nous, c'est la liberté qui est le principe. Eh bien, le magistrat peut décider, s'il n'y a pas de crainte de fuite, s'il n'y a pas d'identité douteuse, etc., peut décider de laisser la personne en liberté, quitte à ce qu'elle vienne répondre aux différentes invitations, jusqu'à ce que l'affaire soit fixée devant un juge. Et souvent, la population ne comprend pas cela. Elle souhaite que dès qu'une personne est accusée,
directement pour le condamner.
Directement, et non, on l'écarte, on le met au cachot et jusqu'au jugement. Donc, il y a des choses qui sont régies par la loi. Et le magistrat, c'est quelqu'un qui est formé, n'est-ce pas, pour savoir dans quelles circonstances appliquer telle mesure.
C'est ainsi que je comprends. La plainte contre inconnu est régie par la législation congolaise. Tout commence, si vous êtes peut-être dans un endroit où vous pouvez directement rencontrer l'OPJ, vous vous adressez directement à l'OPJ. Dans d'autres cas, vous pouvez aller directement au parquet.
Dans d'autres cas, vous pouvez, c'est-à-dire vous allez auprès de l'autorité judiciaire la plus proche. Mais l'organisation de judiciaire dans notre pays a fait en sorte que les OPJ soient plus essaimés que les magistrats.
Mmh.
Et à travers ce qu'on appelle communément
les
sociétés, les conteneurs.
Mmh. Hein. Mmh. Bon, voilà.
Alors, vous avez au moins un OPJ dans chacun de ces sociétés, sous-commissariat. Eh bien, ce sont des gens qui sont très faciles à atteindre. Et donc, il est recommandé à la population, lorsque quelque chose arrive, d'aller formellement porter plainte. En ce moment-là, l'OPJ doit acter, selon la loi, cette plainte sur un procès verbal. Un dossier est ouvert. Bon, et c'est encore mieux si vous allez directement au parquet, où le magistrat du parquet commence justement à donner des instructions pour que l'enquête soit enclenchée. Et c'est dans votre intérêt. Parfois, ça ne donne pas de résultats tout de suite, hein, comme dans les cas de vol de véhicules. Mais 2-3 mois après, vous pouvez être surpris, on vous appelle pour vous demander de venir identifier entre 2 ou 3 véhicules qu'on a récupérés, n'est-ce pas, lequel peut être le vôtre. Et beaucoup de gens ont été agréablement surpris de voir qu'ils étaient en mesure de récupérer leurs biens qu'ils croyaient perdus à jamais. Donc la plainte contre inconnu, c'est vraiment un mécanisme qui est mis à la disposition du justiciable, à la disposition du citoyen, et dont il faut user. Malheureusement, dans la pratique, il y a négligence et les gens, finalement, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, comme nous l'avons déjà dit.
Alors, nous avons Léon Mwanda, qui nous appelle du Bas-Congo. Bonjour, Léon.
Bonjour, Julien.
Votre question ?
Ma question est celle-ci. Vous avez, par exemple, un conflit parcellaire avec un sujet, un monsieur quelconque, et au cours d'une dispute, la personne vous dit que non, vous n'habiterez pas cette maison, vous allez mourir, vous allez la laisser. Et par mégarde d'un jour, la nuit, les assaillants viennent saccager votre maison, ils vous posent la vie, et que votre famille, par exemple, ayant été au courant de toutes les menaces qui ont été adressées à votre égard, va porter plainte contre la personne qui vous serait menacée. La personne dit non, moi je n'ai pas ni tout ce qu'elle peut avoir pour tout ce qu'elle peut avoir dit de montrer contre vous. Et que vous n'avez pas de preuves ni de témoins, quels sont les supports qui peuvent appuyer votre plainte, par exemple?
Voilà, M. Guilain Maléry.
Ça, c'est vraiment un examen à poser aux étudiants à l'université. Effectivement, le cas est très intéressant. D'abord parce que nous, dans le contexte congolais et africain, cette menace-là peut signifier deux choses. Vous n'habiterez pas cette maison. Eh bien, ça peut signifier que je vais vous envoyer des personnes qui vont vous ôter la vie. Et donc, vous ne pourrez pas physiquement habiter la maison. Mmh. Mais dans le contexte congolais, ça peut aussi signifier, eh bien, je vais aller faire des gris-gris.
Voilà.
Et donc, il va vous arriver malade.
Voilà, marabout.
Voilà. Alors, bon, dans le cas d'espèce, en tout cas, une telle personne apparaît comme le suspect numéro un. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avions dit, lorsque vous portez plainte contre inconnu, il faut ajouter à cette plainte quelques informations, quelques renseignements qui peuvent être utiles à l'enquêteur. Et un renseignement comme celui-là est primordial, n'est-ce pas? Vous pouvez dire qu'effectivement, ou la famille qui y va, témoignera en disant qu'effectivement, sur ce terrain, il y avait un conflit. Il y a telle personne qui combattait le même terrain, et au cours d'un échange avec la victime, la personne avait eu à proférer des menaces précises. Vous n'habiterez pas cette maison, ça veut dire, ça fait allusion presque directement à une élimination physique. En tout cas, un empêchement de ce genre. Et donc, une telle information est primordiale pour l'enquêteur. Plutôt que de se disperser, n'est-ce pas, l'enquêteur ira tout droit vers cette personne-là qui a proféré de telles menaces comme suspect numéro un. Et donc, c'est une information effectivement à donner à l'enquêteur qui peut même aller jusque, n'est-ce pas, à appréhender la personne dans un premier temps pour mieux, n'est-ce pas, enquêter, etc. Et il se peut que souvent, d'ailleurs, l'enquête confirme que c'est souvent une telle personne qui a eu à organiser une bande de malfaiteurs, etc., pour exercer les représailles qui avaient été promises. Donc, ces situations comme décrites par l'auditeur Léon, eh bien, sont vraiment courantes et ça aide beaucoup les enquêteurs d'avoir des indices comme cela.
Monsieur Guilain Maléré, vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la procédure pour porter plainte contre inconnu. On vous retrouve très prochainement.
Merci à vous, Guillaume Ngembo.